Et aujourd'hui, vous allez nous parler du peintre en jardin public de Manet à Hopper.
Merci beaucoup.
Et la parole.
Merci. Donc, en fait, je voudrais d'abord évoquer la manière dont l'idée m'est venue d'étudier la peinture des jardins publics. En fait, vous citiez des travaux précédents, c'est par la familiarité des images, par les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire, au fond, mes précédents travaux sur l'enfance dans l'art m'avaient fait découvrir l'importance de ce lieu dans la peinture. Voilà, par exemple, un tableau fort connu de Manet, mais en général, la plupart du temps, on ne s'aperçoit pas qu'au premier plan et dans l'axe même, au centre même du tableau, il y a deux petites filles qui sont en train de faire des pâtés de, non pas des pâtés de sable d'ailleurs, mais des pâtés de terre. Là, voilà. Vous montre un autre tableau, un tableau de Renoir, le Jardin du Luxembourg de 1887, ce tableau du Finlandais Edelfelt. Et au fond, c'est impossible de s'intéresser à la place du jeu dans la modernité, sans à la valeur que lui attribuent les artistes, sans prendre en compte cette ère de jeu qu'est le jardin public. Et là, j'ai voulu y voir d'un peu plus près, d'autant que la littérature, au fond, était assez pauvre en histoire de l'art. Je m'en suis aperçu sur le sujet. On s'intéresse au jardin du peintre, mais rarement au square et au jardin public des peintres. Donc, si vous voulez, je suis revenu sur ces représentations. Je les ai interrogées. Ça a été une longue enquête, notamment en archives, aux archives de Paris, aux archives du Sénat, pour comparer ce que nous apprennent les documents administratifs et ce que nous montrent les peintres. Et c'est comparer les deux, c'est se rendre à l'évidence que la peinture est toujours une interprétation. Ce n'est pas un document, ou en tout cas c'est un document qu'il faut prendre comme une interprétation, et que cette interprétation varie d'une époque à l'autre, d'un artiste à l'autre. Mais cette évidence n'est qu'un point de départ, évidemment. Il faut s'interroger sur le sens de cette interprétation, qui est très variable. Depuis l'espèce de propagande éducative à la manière d'Edelfelt, le jardin des mères et des nourrices, jusqu'au jardin politique, au Luxembourg politique d'un Valoton qui a lieu équivalent, et à époque très proche, le Luxembourg, a lieu équivalent en Luxembourg et à époque très proche, on est là au début de la Troisième République, nous montre tout à fait autre chose. Non plus le séjour bienheureux, bienfaisant de l'enfance, dans un environnement ensoleillé et aéré, mais une sorte de cohue anarchique des promeneurs sous la surveillance du représentant de l'ordre. Là, une version anarchisante de ce Valoton qui se plaît, si vous voulez, à montrer, à désacraliser, à démystifier le contrat social dont le jardin public serait un symbole, au fond, un symbole moderne, puisque on est là dans la grande époque des jardins publics, du jardin public haussmannien, du square haussmannien, et qui, si vous voulez, se veut un lieu de concorde civile, d'initiation à la sociabilité, à l'urbanité, aussi bien évidemment un lieu hygiénique de récupération, de réparation. Au fond, là, il y a comme une forme d'idéal mené par le Second Empire, mais poursuivi évidemment par la Troisième République et qui est exalté dans ce tableau, si vous voulez, qui est presque qui a été maintes fois reproduit, et c'est pas pour rien d'ailleurs, parce que là, on nous montre au fond, sous couvert d'ailleurs de réalisme, comme s'il s'agissait d'un document, une forme d'idéologie du loisir socialement utile. et d'un lieu qui serait voué à la régénération morale et physique et au développement de l'enfance. L'ironie d'ailleurs de cette œuvre, c'est que vous voyez donc, c'est une sorte de cour de récréation en extérieur où les enfants apprennent à jouer ensemble et, si vous voulez, dans le grand air et dans un environnement très favorable sur le plan de la santé. L'ironie, c'est qu'ils jouent, si vous voulez, ils creusent la terre du jardin et qu'à la même époque, les hygiénistes, les médecins s'aperçoivent en fait que cette terre est extrêmement nocive. Il y a un article qui paraît, je l'ai lors de la recherche que j'ai faite, un peu plus tard, dans les années 1890, qui parle des allées mortelles parce que les gens crachent, etc. Et c'est un peu plus tard qu'on va... Il y a une association qui se fonde qui s'appelle Nos bébés au square qui vont développer des espaces réservés avec du sable, etc. Donc, c'est intéressant de voir au fond que c'est tous ces enfants qui jouent dans la terre ici, à même la terre des allées, et que au fond, avec les meilleures intentions du monde. Donc la peinture de Valeton nous montre tout à fait autre chose. Le premier constat que j'ai pu faire au cours de cette recherche, c'est qu'il y a vraiment, j'ai constitué un corpus, chose que fait tout historien de l'art, on constitue un corpus d'œuvres et puis on élabore une réflexion à partir de ce qu'on trouve, tout ça est très progressif, des questions, une problématique. Il y a vraiment un âge d'or du jardin public en peinture qui correspond à la modernité, au fond, qui va des impressionnistes à peu près, jusqu'au fauve. Au fond, ça se passe entre 1860 et 1905. Pourquoi ? Parce que le jardin public haussmannien et républicain ensuite condense les vertus modernes, si vous voulez, l'hygiène, l'élégance, le développement de l'enfance, le loisir démocratique, spécialement dans les squares, qui font partie intégrante de ces représentations. J'en ai trouvé beaucoup. Je vous montre comme ça un échantillon de tableaux que certains sont très connus, d'autres beaucoup moins. Voilà un tableau de l'American Sargent qui nous montre que Paris, à cette époque, est un pèlerinage pour les peintres de tous les pays. Ils se rendent directement au Luxembourg pour faire des tableaux qui sont très proches de ce que font les Français. Et ce qui va m'intéresser, c'est qu'au-delà de 1905, au temps des avant-gardes, le jardin public cède la place à autre chose qui est l'utopie primitiviste de la jungle, celle qu'on voit chez les fauves, celle qu'on voit chez Derain, par exemple. Si vous allez voir l'expo Derain qui a lieu actuellement à Beaubourg, vous ne verrez pas de jardin public. Vous verrez quoi ? La jungle primitiviste. Matisse dit qu'il faut partir dans la brousse. Et donc, si vous voulez, je vais revenir à cet âge d'or, mais je voudrais faire un petit excursus en disant que si l'on continue à représenter le jardin public ensuite, c'est pour sa valeur anachronique, pour son extra-temporalité, que certains peintres jugent très précieux. Je pense par exemple à Jean Hélion, ce peintre qui est un peintre qui a participé aux avant-gardes les plus radicales, qui est un peintre abstrait, et qui dans les années 50 se met à faire des œuvres réalistes et des œuvres qu'il situe au Luxembourg. Il fait quantité de vues du Luxembourg, son atelier jouxte du Luxembourg, et il demande même au conservateur du Luxembourg de lui apporter un banc dans son atelier, chose que le conservateur accepte. Donc il voit un jour arriver des jardiniers portant un banc dans son atelier, ça va être son grand sujet. Mais pourquoi le fait-il, si vous voulez? C'est que au fond il considère qu'il y a là, il y a eu dans cette modernité, toute cette modernité qui est celle de Manet, qui jusqu'à celle de Seurat, n'a pas tout dit. Il y a des potentialités qui auraient été, au fond, inexplorées par la table rase des avant-gardes. Et lui veut reprendre, en quelque sorte, revenir en arrière, réexplorer ce qui n'a pas été suffisamment étudié. J'ai souhaité, je cite Hélion, situer mon effort au niveau d'œuvres comme la Grande Jade de Seurat ou le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui comportent toutes les deux un réalisme total dans une liberté renouvelée. Donc, si vous voulez, Il enclenche un processus à rebours et il est délibérément anachronique. Il faut reconnaître que la représentation des jardins publics en peinture cesse ou devient très résiduelle après 1914 et en revanche, elle passe entre les mains du photographe. Par exemple, Édouard Bouba fait une très célèbre une série de photos très connues des enfants qui jouent au Luxembourg, mais qui sont tout à fait dans une veine nabie. Je prends un autre exemple, c'est Hopper, où, si vous voulez, Hopper, aux États-Unis, en 1935, nous fait un tableau qui s'appelle Shakespeare au crépuscule, où il insiste d'une façon, si vous voulez, presque ostentatoire sur l'extraterritorialité du jardin public, du parc à l'américaine, dans le souvenir d'ailleurs du jardin public français, parce que Hopper est profondément francophile et déclare jusqu'à la fin de sa vie, je crois que je suis toujours un impressionniste, et aussi son extra-temporalité. Si vous regardez ce tableau, vous avez au fond, vous avez une sorte d'insularité du jardin public, et puis au fond, vous avez des gratte-ciels, et notamment US, cette enseigne lumineuse qui montre au fond, qui incarne le temps des gratte-ciels, par contraste avec les deux statues, celle de Shakespeare et celle de Christophe Colomb, qui se font face et qui évoquent évidemment dans le poème de Verlaine, dans le vieux parc solitaire et glacé, deux âmes se sont rencontrées. Donc quelque chose de très verlainien, mais qui, si vous voulez, en 1935, là, signifie par l'anachronisme le changement de temps, la manière dont le fait que... au fond, on est passé à une autre époque et que ce jardin public, à l'ancienne, nous révèle ce changement d'époque. Donc il y a quelque chose de précieux. Ça n'est pas une peinture qui est conservatrice, qui défendrait à tout prix, si vous voulez, une certaine époque, mais qui est là simplement pour faire changer, pour faire comprendre, chose qui a toujours été le sens de l'œuvre de Hopper, aux Américains, au fond, que le gratte-ciel se fait sur la ruine de ce qui a précédé. Alors, deuxième constat, cet âge d'or entre 1860 et 1914 fait du jardin public un espace idéal. Non seulement d'hygiène moderne, de mode, mais aussi, comme je l'ai dit, de sociabilité. Le jardin public, c'est une vitrine et l'esthétique s'étend aux relations sociales. Le jardin public, c'est un paysage urbain. Mais il faut aller plus loin que la vue d'ensemble et l'atmosphère. C'est aussi un jardin humain qui ne prend sens que dans l'analyse du premier plan. Et ça, c'est important. Ça a été très important dans ma recherche. Ça m'a littéralement passionné. Avec ces personnages qui sont des acteurs sur une scène, sur la scène des relations sociales. Et cette analyse des premiers plans dans les tableaux nous apprend beaucoup. Doit être replacée aussi dans un corpus beaucoup plus large et documentaire. Celui des images les plus modestes, des gravures, des illustrations, etc., des cartes postales. Peindre le jardin public sous la Troisième République, c'est peindre une sorte d'utopie réelle, une quotidienneté idéalisée. Le Luxembourg, le parc Monceau, les Tuileries nous sont représentés comme des espaces de concorde civile et aussi civique. Je voudrais vous montrer un tableau. Une vue du Luxembourg, monument Chopin par le douanier Rousseau. Et dans l'art du douanier Rousson, le Luxembourg apparaît comme un espace mémoriel, votif, celui des monuments que la nation consacre aux grands hommes. On revient à la communication d'Emmanuel Grand tout à l'heure. Une perception qui, d'ailleurs, dans les faits, n'a absolument rien d'arbitraire, puisque le souvenir entre bel et bien dans la mission de ces espaces plantés de bustes et de statues. Et la façon même, ce qui m'amuse, si vous voulez, dont Rousseau représente certains promeneurs ici dans son tableau, semble en rapport direct avec cette vocation mémorielle. Les deux, là, le monsieur et la dame, élégants tous les deux, encadrent le monument et paraissent communier dans un hommage au musicien Chopin, dont la statue est toujours là, malheureusement elle n'est plus en bronze parce que le bronze a été fondu sous l'occupation, elle est maintenant en pierre, me paraissent communier un hommage aux musiciens qui renvoient aux activités d'ailleurs de Rousseau lui-même, de Henri Rousseau, qui était musicien et professeur de musique à 16 heures. Donc, si vous voulez, vous avez ici un visage officiel du jardin qui nous rappelle que cet espace des jeux d'enfants, des galanteries, des papotages accueille aussi des cérémonies, des dépôts de gerbes et des discours en hommage aux célébrités disparues. Alors, troisième constat. Cette vitrine, qu'est le jardin public, dissimule autant qu'elle expose. Il y a une phrase très connue de Paul Klee, « L'art rend visible ». Mais en réalité, l'art, c'est aussi ce qui rend invisible. L'art, c'est aussi ce qui cache, ce qui met sous le tapis. Et moi, ce qui m'a frappé, ce que je soupçonnais un petit peu, si vous voulez, c'est le décalage étonnant entre ce que les archives nous disent du jardin public et ce que les peintres nous en montrent. Je me suis aperçu, par exemple, aux archives du Sénat, qu'il existe toute une face ignorée par le jardin du public des artistes, c'est par exemple la prostitution. Le Luxembourg est un très haut lieu de prostitution. J'ai trouvé un rapport d'enquête extraordinaire de 1909 d'un inspecteur qui montre la cartographie prostitutionnelle du Luxembourg. C'est absolument, si vous voulez, il y a une prostitution homosexuelle, etc. Bon, c'est une enquête parce que les gens commençaient à se douter, en effet, qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient au Luxembourg. Donc, on diligente une enquête sous la Belle Époque, le jardin public, c'est aussi un haut lieu de tension sociale. Sous la Belle Époque, le square et le jardin public ne sont pas à l'abri des apaches. Vous savez, ces mauvais garçons que Jacques Becker montre dans Casque d'or, des vagabonds, des peurs. Mais c'est aussi, surtout, le jardin de l'entretien, de la terre, des déjections. Si vous voulez, tout ce verso matériel du recto esthétique. Alors, ce qui est frappant, par exemple, c'est qu'on voit souvent le gardien de square dans les représentations, mais très rarement le jardinier, le cantonnier, les toilettes publiques, ce qu'on appelle les chalets de nécessité. Et j'ai cherché à savoir si, malgré tout, dans les représentations, certains peintres n'avaient pas dérogé à cette représentation idéale, en abordant, ou au moins par allusion, si vous voulez, ce que j'ai appelé dans ma recherche le square ville. Alors, par exemple, voici une image. C'est un dessin fait par Van Dongen, bon, qui est un des grands fauves. Mais là, il se trouve que ce n'est pas le Van Dongen des peintures. C'est un Van Dongen du dessin satirique. Il fait ça dans sa jeunesse, c'est un travail alimentaire. Il fait ça pour l'assiette au beurre, là, en l'occurrence, c'est pour la caricature, en 1902. Et qu'est-ce qu'il nous montre ? Bien, il nous montre des étudiants, trois étudiants qui sont complètement avachis sur le banc d'un jardin public. On pense qu'on est au Luxembourg, certainement, puisque ce sont des étudiants. On est dans le quartier, c'est le jardin du quartier latin. Ce qui est frappant, c'est la manière dont ces trois étudiants vont nous être montrés dans une peinture. Où l'on va voir la différence, on va voir précisément que ce genre de scène, l'avachissement, le comportement inapproprié n'est pas montré par les peintres. Voilà un tableau qui se trouve, que j'ai photographié au Sénat, où vous avez tout un ensemble de tableaux sur le Luxembourg, d'artistes plus ou moins connus. Celui-ci n'est très peu connu, il s'appelle Avi. Si vous regardez bien, vous avez au fond, vous avez nos trois étudiants. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas avachis, ils travaillent. Ils travaillent tellement, d'ailleurs, qu'ils lisent en marchant. Bon, ils sont promis un brillant avenir. Et si vous voulez, vous avez... j'ai donc cherché à savoir si, malgré tout, certains peintres n'avaient pas dérogé à cette représentation idéale, ce que j'ai appelé le square-ville. Et d'où mon intérêt pour un peintre qui est absolument central pour la question, qui est Vuillard. Parce que Vuillard a fait des squares, des jardins publics, c'est Nymphéa. C'est un véritable terrain d'observation, d'enquête dans sa peinture, qui s'articule avec l'autre grand sujet, ce sont les intérieurs. Hein, un véritable terrain d'observation, aussi de transmutation décorative. C'est très frappant quand on voit le catalogue raisonné qui a été fait par Guy Cocheval et Antoine Salomon de voir le nombre de jardins publics et de squares qu'il a balayés C'est une véritable exploration parisienne. L'un de ses chefs-d'œuvre, qui est une sorte de synthèse de ses études, c'est l'ensemble décoratif intitulé « Jardin public » de 1894, dont la majeure partie des panneaux se trouve au musée d'Orsay. Et dans sa passion des jardins publics, il est allé jusqu'à s'installer au-dessus d'un square parisien, le square Berlioz, dans le 9e arrondissement, l'actuel square Adolphe Max, pour pouvoir le peindre tous les jours, sous toutes les coutures, sous tous les climats. Je voudrais m'arrêter à l'une de ces nombreuses vues du square Berlioz. Et ce tableau est vraiment passionnant. J'ai fait aussi un livre sur ce sujet à l'issue de ma recherche, mais je me suis beaucoup arrêté, et ça a été l'occasion de grandes discussions avec les étudiants sur ce tableau. Il est passionnant parce qu'au fond, j'espère qu'on le voit bien, il confronte la vitrine du jardin public, sa face esthétique, les plantations, les parterres de fleurs, mais aussi le dessin des allées, des grilles, la statue au milieu, qui est la statue de Berlioz, au grand refoulé, au fond, de ces tableaux, des tableaux des autres peintres, c'est-à-dire l'entretien, la terre, la machinerie, au fond, tout ce qui fait que ces squares ont besoin d'entretien, on l'a bien vu tout à l'heure, parce que ce que l'on voit au premier plan, ce sont des terrassiers, des maçons en train de construire un entrepôt souterrain pour les cantonniers qui vont entretenir le square et les rues avoisinantes qui vont nettoyer. On sait que les cantonniers nettoient les bassins, vont nettoyer les statues. J'ai retrouvé des rapports de cantonniers qui montrent leur rôle dans les jardins publics. Et ici, si vous voulez, Vuillard incorpore à sa composition ce que les artistes mettent soigneusement de côté dans le hors-champ et dont les archives nous apprennent l'existence. En 1915, donc, on entreprend de creuser sous le square et le trottoir qui le longe du côté de la rue de Vintimille, un local pour les cantonniers, hein, comprenant donc vestiaires, lavabos, etc., remise à outils, réserve de sel, tandis que le local du gardien de square est bien apparent dans les peintures, hein, celui du cantonnier se fait toujours oublier. Les jardiniers, c'est rare aussi d'en trouver dans la peinture. Et donc là, on n'a pas d'image, on n'a pas de carte postale, on n'a pas ce local. Alors certes, il est souterrain, mais si vous voulez, il n'y a pas de témoignage visuel de sa construction, enfin, qui soit diffusé. Et c'est d'autant plus frappant que Vuillard en fasse une grande composition. Il enregistre, en quelque sorte, cette construction souterraine dans une peinture très ambitieuse, vous voyez, très, très grande. Et dans cette œuvre, au fond... avec cette œuvre, il nous oblige à réfléchir à ces deux faces, à leur coexistence, à leur interdépendance, car au fond, le square n'existe pas sans des gens pour l'entretenir, et aussi à l'interstice qui sépare le loisir du travail, qui n'est pas plus épais qu'une grille. C'est une peinture donc, qui ne se contente pas de nous séduire, mais qui nous trouble, enfin moi en tout cas, qui nous dérange, parce qu'elle met les pieds dans le plat un peu, comme le firent généralement souvent des œuvres mémorables, je pense à l'enterrement Ornon, à Olympia, en juxtaposant, comme ici, des univers qui sont distincts, qui sont même peut-être antagonistes, le monde du travail, le monde du loisir. Et à l'évidence, si vous voulez, Vuillard interroge le rapport entre ces univers sans rien dissimuler de leur tension. Je crois que ce peintre Nabi, qu'on associe toujours un peu facilement au repos, etc., à l'harmonie, ici, il élit un événement particulier qui se déroule sous nos yeux parce que cet événement fait surgir un hiatus à l'intérieur d'une seule et même réalité. Donc je vais conclure, si vous voulez. J'ai trouvé là un vrai sujet d'histoire de l'art. D'abord parce que les artistes en ont fait leur sujet. Et leur nombre est vraiment considérable. Hein, et représente pour certains d'entre eux ce sujet, non pas un motif ponctuel, hein, mais un véritable terrain de reportage où ils viennent et reviennent. J'ai cité Vuillard. Je voudrais citer également Monet. Il y a en 1876 et 1800, entre 1876 et 1878 une série complète de tableaux de Monet sur le parc Monceau qui est très particulière, c'est-à-dire que si vous voulez, il fait de ce sujet un véritable paysage urbain. Et il fait en sorte, au fond, que la société devienne tâche, se confonde, vienne se mêler visuellement aux fleurs, au fond, les nourrices. Qu'est-ce qu'on voit sur ce banc, pour un peu qu'on y attache de l'importance, ce sont des nourrices. Ce ne sont pas des mères de famille, il faut savoir que c'est le jardin public, c'est le lieu de travail d'une certaine catégorie de population qui est très exploitée, qui vient de Bretagne, d'Alsace, etc., et qui travaille là, c'est son lieu de travail, qui vient, et elles sont assises, et même presque un peu entassées, sur les bancs publics. Il y a les enfants là qui jouent toujours dans la terre, les malheureux. Bon, et puis là, vous avez au fond les élégantes très japonisantes. Mais il fait, si vous voulez, une sorte de jardin... Il en fait vraiment, si vous voulez, on oublie presque les arceaux, etc. Il y a des tableaux qui sont encore plus, j'allais dire, champêtres. Bon. Autre exemple, c'est le cas de Van Gogh qui est très intéressant, qui va faire en 1888, qui va consacrer au Square Lamartine, au Jardin Lamartine à Arles, une série de 10 peintures et d'autant de dessins. C'est un jardin qui se trouvait sous les fenêtres de la maison où il logeait et il va en faire, entre autres, un ensemble décoratif pour la chambre de Gauguin qui l'attend avidement dans la fameuse maison jaune. Donc, si vous voulez, ce jardin public, on ne soupçonne pas quelle a été son importance pour les peintres. Donc, j'ai découvert là, un vrai sujet d'histoire de l'art pour une autre raison aussi que je voudrais dire, c'est que ce sujet ouvre l'histoire de l'art et c'est très salutaire pour une discipline comme la nôtre, au dialogue avec d'autres disciplines, l'histoire des jardins, l'horticulture, ou enfin la sociologie urbaine qui m'a été très utile dans ma réflexion sur ce que Erving Goffman, le microsociologue, appelle l'inattention civile, c'est-à-dire l'art de l'urbanité par le respect des distances. Et en conclusion, si vous voulez, je suis frappé qu'on ait beaucoup écrit et exposé sur le jardin dans les arts, peu sur le jardin public, et qui est un sujet qui me semble relativement friche, et peut-être, est une hypothèse, parce que ce jardin public a longtemps correspondu à une image désuète, fermée, avec ses grilles, ses pelouses interdites, et en tout cas le jardin version française, jardin public, une version désuète et fermée du loisir urbain, manquant de vivre ensemble, de partage, et peut-être trop marquée pour notre époque par ces règles et ces protocoles qui étaient si chers au XIXe siècle et que le XXe siècle, lui, s'est empressé d'oublier. Je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup, et notamment de votre conclusion, car j'ai été frappée tout le long de votre exposé, moi qui suis ethnologue, après avoir été historienne au début, de l'importance comme témoignage de l'histoire et aussi de l'ethnologie et de la sociologie des jardins, de ces tableaux. Et je me disais tout le long de votre exposé que c'était vraiment sur cette ethnologie et sociologie des jardins de très précieux témoignages. Donc, naturellement, c'est ce qui m'a beaucoup frappé.
Merci.
Mais je crois que vous avez sûrement des questions à poser et nous avons un peu le temps que vous les posiez, donc je vous demande d'intervenir. Emmanuel Errand.
Un jour, mais en tout cas, j'ai essayé de le faire valoir, par exemple, après tout, au Jardin des Tuileries, il y a quand même un musée qui est le musée de l'Orangerie, qui serait tout à fait propice à accueillir ce genre d'exposition. Et en fait, le musée de l'Orangerie il y a quelques mois, a refusé ce thème. Pour lui, ce n'était pas un thème. C'était... Et donc, je pense vraiment que vous avez tout à fait raison de réévaluer ce... De réévaluer ce qui est plus qu'un thème. Hein. Moi, on m'a toujours dit, c'est une exposition thématique, ça marche jamais trop. Mais on est bien au-delà du thématique, on est bien d'accord.
Mais alors, je vais vous dire, j'ai eu du mal à faire publier mon livre. Je me souviens que Azan m'avait dit, écoutez, un livre sur les jardins, d'accord, mais sur les jardins publics, non. Ça fait, c'est triste, le jardin public. Le jardin, ça fait rêver. Le jardin public, c'est embêtant. Finalement, j'ai réussi, heureusement, à le faire publier ailleurs, aux presses du réel. Mais je pense qu'il y a quelque chose, alors que précisément, ce côté, le fait précisément que ça soit quelque peu aussi, ces règles de vie nous soient quelque peu exotiques, même si en réalité, on revient quand même à ça. Doit faire peur doit faire peur à un certain nombre de gens. Je voulais, puisque vous intervenez, je voulais juste vous dire une chose, c'est que Hopper a fait dans ses œuvres de jeunesse a fait une peinture de la sculpture de Niobe qui se trouve vous le savez, très bien, alors je ne vous apprends rien.
En fait, j'ai programmé l'exposition Hopper au Grand Palais quand je m'occupais de la programmation des expos au Grand Palais. Et d'ailleurs, on m'avait dit que Hopper ne marcherait pas aussi.
Oui, ça, absolument. Non, Hopper est venu dans sa jeunesse, très francophile. Il est venu trois fois à Paris. Il a fait trois séjours en 1905, en 1907 et en 1910. Je crois que c'est en 1910 qu'il s'est planté devant la Niobe. Qui se trouve côté est, du coup près du carrousel, si vous voulez. Il a fait vraiment la peinture d'une sculpture. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai fait juste une recherche rapide, c'est que cette sculpture avait été installée finalement assez peu de temps auparavant. Je crois qu'elle date des années début des années 1900. Donc à l'époque, elle devait être toute fraîche. Alors pour le coup, pas d'altération ni de tag.
Ah, bravo, je pense que vraiment, on a besoin d'historiens d'art qui sont au croisement des disciplines comme vous et qui mettent l'accent sur des aspects un peu marginaux, un peu négligés. Enfin, si et marginal est souvent le plus intéressant.
Et moi, je pense qu'on peut faire des liens avec des problèmes tout à fait contemporains. Je pensais à ce que vous disiez sur la terre des allées qui avait fait l'objet, etc. Il y a toute une problématique sur les sables actuellement, qui seraient des dangers effroyables pour les enfants parce qu'ils s'y cacheraient toutes sortes de choses. Et en fait, il n'y a pas de danger véritable, pas plus en tout cas que d'autres dangers possibles. Mais ça, c'est un thème récurrent et ça prouve... Une autre chose qui m'a...
C'était pas de la terre à l'époque. Au Jardin des Tuileries, ça a toujours été du sable, les allées.
C'était
toujours,
du sable,
toujours, déjà. Toujours. Ça, j'en ai vraiment la preuve.
Mais c'était un sable très compacté, bien sûr. J'ai été frappée aussi dans le tableau de Vallotton, ce tableau provocant. Et une des provocations, c'est le garde. Est au premier plan et qui est le symbole même de l'ordre qui doit régner dans le jardin public. Donc, c'est pas par hasard qu'il est au premier plan.
Ah oui. Voilà.
Je me permets, je profite d'avoir le micro à proximité pour poser une question sur le corpus que vous avez constitué en termes de limites géographiques, parce que là, les exemples sont des jardins publics français. Mais est-ce que votre corpus initial, enfin, quelles sont les limites géographiques de votre corpus initial? Parce que je me dis, ça pourrait être intéressant de se poser la question, est-ce que cette occultation du volet sombre du jardin public est liée à une sphère culturelle? Est-ce que dans d'autres pays européens, par exemple, il y aurait un autre type d'approche?
Je ne sais pas s'il y aurait un autre type d'approche. En fait, le corpus, oui, il est essentiellement français. C'était pour des raisons aussi. Si vous voulez, j'avais déjà vraiment tellement à dire que je me suis arrêté là. avec des tableaux d'Américains, mais qui sont généralement réalisés, qui viennent en France. En réalité, si vous voulez, sur cette question du hors-champ, de ce qui n'est pas montré, on voit clairement la démarcation entre la peinture art noble et le dessin de presse, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce que Baudelaire appelait l'argot plastique, au fond, où là on s'autorise dans le dessin de presse, qui est extraordinairement florissant sous la Troisième République, avec la Cité au beurre, on s'autorise à montrer précisément tout ce que la peinture ne montre pas et ce que documentent les archives.